תודה רבה pour votre accueil une fois de plus. Et aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de la Torah des secrets. La Torah des secrets, en hébreu Torah HaSod, est très mal connue. Elle est très mal connue parce que le problème, c'est que nous disons justement cette traduction, la Torah des secrets, et lorsqu'on dit Torah des secrets, on a l'impression que c'est un secret, donc il ne faut pas le dire. Mais en fait, les secrets, comme tous les secrets, ils sont secrets pour un moment donné, et ils deviennent obligatoirement révélés à un autre moment. Par exemple, un enfant qui est en bas âge, on ne peut pas lui raconter certaines choses, mais lorsqu'il est adulte, la chose qui est faite interdite devient obligatoire, sinon il va avoir des problèmes dans sa vie. Mais c'est exactement la même chose. Le peuple d'Israël a grandi comme un enfant, et donc dans son enfance, il avait certaines choses, certaines données qu'il devait garder pour l'instant et ne pas dévoiler. Mais dans sa maturité, eh bien, les choses évolue naturellement, et il s'agit maintenant de savoir vivre selon l'âge que tu as. Et surtout, qu'il s'est passé quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes rentrés sur notre terre. Et donc la terre d'Israël, qui elle-même aussi exige un certain niveau d'études, ne peut pas supporter le côté superficiel des choses. Cette terre d'Israël s'appelle donc Eretz Harazim. Traduction littérale, la terre des maigres. La terre des maigres. Or, le mot raz en hébreu veut dire secret. Ça veut dire qu'en hébreu, le mot secret va avec les maigres. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est une fausse traduction, mais elle est très proche de la réalité, c'est que être maigre, c'est être fin. Et la Torah des secrets, c'est la finesse. C'est l'inverse, c'est l'antithèse de la grossièreté. Ça ne veut pas dire que quand on est grossier. Mais ça veut dire qu'en réalité, on ne capte pas la finesse, la délicatesse qui correspond au degré de cette terre d'Israël. Donc la terre d'Israël exige, en fait, une sensibilité, une fluidité, une maigreur, une finesse, une délicatesse pour justement dévoiler ce qu'elle a à donner. Le Rav Kook, Alav HaShalom, dans son premier livre de Orot, il parle justement de la terre d'Israël et il l'appelle Eretz HaRazim, donc la terre des secrets, mais de la finesse. Et il dit, dans ses premières paroles, Eretz Israël est inena davar chitsoni. La terre d'Israël n'est pas superficielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aborder cette terre par un regard superficiel de la vie. Même pas pour rassembler des juifs. Donc la terre d'Israël n'est pas un moyen. Pourquoi ce n'est pas un moyen, comme beaucoup de gens pensent? C'est le meilleur moyen pour vivre sa religion. Ça ne veut rien dire. Si c'était un moyen, la terre d'Israël, le jour où le moyen te gêne un petit peu, tu vas chercher un autre moyen. Et donc tu vas quitter la terre d'Israël pour aller vivre ailleurs. C'est comme si je me mariais avec une femme, et cette femme est un moyen pour moi. Le jour où je trouve une femme plus intelligente, plus belle, je laisse tomber la première et je vais chercher la deuxième. Ça ne marche pas comme ça. La terre d'Israël, c'est un but. C'est tellement lié à notre essence qu'on ne peut pas la comprendre avec un œil grossier, superficiel, qui ne voit que la face dévoilée des choses. Si tu ne comprends pas la neshama de cette terre, l'âme de cette terre, tu ne peux pas, en réalité, avancer. Maintenant, si vous prenez le nom d'Hachem, vous voyez, il y a quatre lettres. La dernière lettre représente cette femme. On l'appelle dans la Kabbalah la Malchut, la royauté. En réalité, c'est une épouse. Pourquoi c'est la lettre V? Parce que la lettre V est féminine, par définition. Ce n'est pas par hasard que les sages nous disent que c'est bien d'avoir pour une femme cette lettre dans son prénom. Et que les femmes qui n'ont pas cette lettre dans son prénom, il y a un petit peu plus de difficultés dans la vie et pour avoir des enfants et pour plein de choses, pour dévoiler certaines choses. Donc c'est un degré qui est nécessaire, cette lettre. Et en plus de cela, tout le côté fécondé commence par elle. He rayon. Être enceinte, c'est la lettre He. Vous voyez que la lettre Ré, c'est en réalité, là vous la voyez carrée, c'est comme un ventre, avec à l'intérieur du ventre, une graine de semence, un bébé. Donc en réalité, la lettre Ré est une femme qui contient un bébé à l'intérieur de son ventre. Ce bébé n'est pas seulement un bébé humain, c'est aussi tout ce que peut révéler une femme. Parce qu'elle est l'écran sur lequel l'homme va projeter son idée. Donc l'homme projette un film et la femme révèle ce film dans le monde. Eh bien, cette relation homme-femme, c'est la même relation que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu représente le côté masculin qui donne, et nous, l'Assemblée d'Israël tout entière, nous sommes son épouse qui est censée prendre ce qu'il a à nous donner, la graine de semence, et la développer, la raconter au monde. Donc nous sommes ceux qui vont faire sortir le bébé de notre grossesse. Et c'est pour ça que nous avons, au moment où nous avons reçu la Torah, nous sommes obligés de recevoir la Torah, et immédiatement, c'est comme s'il y a eu un rapport intime entre Akadosh Baruch Hu et son épouse, et qu'est-ce qu'il nous a donné comme semence? Les 22 lettres de l'alphabet. Ce sont 22 gouttes de semence. Ces 22 gouttes, ce sont 22 lettres qui vont former des milliards et des milliards de connaissances et de bébés et de toute la Torah que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce que nous racontons sur la Torah, ça vient de cette évolution de bébés qui a été fécondée. Et donc, la Torah a été donnée et immédiatement où elle est donnée, on rentre, on tombe enceinte. Donc, c'est pour ça que cette événement s'appelle Har Sinai. Har vient du mot Herayon. Donc si la montagne en réalité a commencé à gonfler parce qu'il y a fécondation. Donc comprenez que le don de la Torah est un rapport intime entre l'infini et le monde à travers l'assemblée d'Israël qui est la femme qui elle seule peut recevoir et féconder Akadosh Baruch Hu. C'est important de comprendre cela, parce que si on ne comprend pas ce lien, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu nous a balancé un livre du ciel, qui s'appelle la Torah, et il nous a demandé d'aller étudier. C'est pas ça, l'étude de la Torah, c'est pas son étude. L'étude de la Torah, c'est en réalité, dans le mot « limoud », il y a le mot « valad », qui veut dire « naître »,« fécondation »,« bébé », »,« nolad ». Donc le mot limoud, ce n'est pas seulement un enseignement, c'est un rapport intime avec l'infini. À chaque fois qu'on étudie la Torah, nous sommes dans cette situation de rapport intime avec les valeurs de l'infini, et nous sommes ceux qui fécondons sa parole divine, et elle se propage dans le monde comme si on venait d'accoucher. C'est comme ça qu'on choisit son maître dans la vie. Si vous choisissez un jour un maître dans la vie, ce n'est pas un maître qui va vous donner des connaissances en Torah, mais c'est un maître qui va vous féconder. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous sortez d'un cours, vous avez l'impression que vous êtes enceinte de plein de nouveautés et que vous pouvez en réalité dire « Waouh, je viens de recevoir en fait quelque chose qui engendre et donne naissance à plein de choses. Il y a plein de choses que je suis en train de comprendre. » Grâce à cette fécondation, grâce à cette étude. Et d'ailleurs, c'est la racine du mot Talmid. Talmid, Dans le mot Talmid, il y a le mot Yeled et Leida, c'est-à-dire accoucher, enfant et tout. C'est la même chose. Donc qu'est-ce que c'est un Talmid? C'est celui qui va faire accoucher son maître. Le maître va donner un cours et le Talmid va, de ce cours-là, écrire un livre. Je me rappelle un jour où j'ai appelé mon Rav pour lui dire « Est-ce que je peux dire que je suis ton élève ?» Il m'a dit « Pourquoi ?» Je lui dis « Parce qu'à chaque fois que je sors d'un cours à vous, j'ai l'impression d'être rempli et que je peux, à mon tour, après une heure d'un cours à toi, écrire un livre entier. » Il m'a dit « Alors tu peux dire que je suis ton Rav. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sentais fécondé à chaque fois que j'allais à un cours. Donc je tombais enceinte de cette connaissance divine. Alors, éloignez-vous un petit peu des premiers niveaux de tomber enceinte, vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Okay? Donc c'est au niveau mental, je suis complètement rempli au point où ça commence à sortir, à sortir, à sortir, et je peux écrire des tonnes. Parce que ce n'est pas seulement l'information qui m'a donné, c'est qu'il m'a ouvert en moi une porte qui était fermée. Et ça, c'est la véritable étude. Et c'est ce qu'on a dit dans la Haggadah de Pesach, « At petach lo ». Si tu n'ouvres pas en lui, ça ne sert à rien de lui donner des informations. Si vous venez pour écouter un cours et dire « Oh là là, le Rav il a dit », c'est pas ça. Le Rav, il est censé ouvrir une porte qui était fermée en toi. Et à partir du moment où tu as ouvert cette porte, il y a tout qui est en train de sortir et tu es en train de comprendre et voir la vie avec un autre œil. Et je dis à mes élèves, avec toute humilité, si vous ne ressentez pas ça à chaque cours que je vous donne, je vous demande de ne plus revenir au cours. Parce que je ne suis pas celui qui est capable de vous féconder. Allez ailleurs. Autrement dit, à chaque fois que vous sortez d'un cours, vous devez être dans cette situation. Nous sommes maintenant dans cette Torah. La Torah, justement, de ce secret. On a dit que le secret s'appelait Raz, pas seulement Sod. Vous connaissez peut-être la terminologie Sod, mais il y a une autre terminologie en hébreu. Le mot Raz veut dire secret, parce qu'il est fin, comme rasé, maigre. Donc la finesse, c'est la Torah des secrets. Mais nous avons dit aussi que c'est la lettre He qui, elle, reçoit tout ce secret. Donc le Raz, le secret de la lettre He. Raz, He. Vous inversez les lettres, ça donne Zohar. Le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y a pas de Vav dans le Zohar, c'est Zayin He Resh, c'est-à-dire Raz He, le secret de la lettre He, de la fécondation. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai nous a écrit un secret qui est capable de féconder à toutes les générations, et les sages nous disent dans un verset de la Torah, « Ki lotishakach mipi zaro » jamais la Torah ne sera oubliée. De qui? Zaro. De sa semence. Incroyable. Et si vous prenez la fin des mots, qui? C'est la lettre Yud. Lo. Alef. Tishakach. Chet. Mipi. De la bouche. Yud. Zaro. Vav. Je viens d'écrire le mot Yochai. Ça veut dire que Rabbi Shimon bar Yochai nous a laissé en fait la semence pour toutes les générations, il a ensemencé en nous le secret de la royauté d'Israël, donc qui est la royauté de Dieu, qui va se dévoiler à travers son Zohar. C'est le secret de cette femme, de cette malchoute. Bon, je peux partir, ça y est. Quel?
La différence qu'il y a entre main et plein. C'est contradictoire et ça représente la même chose. Le secret de
Marie. C'est-à-dire plein.
Plein avec la lettre E.
Ok. C'est la même chose. Ça veut dire on est plein de finesse. C'est ça que ça veut dire. Je suis rempli de délicatesse. Comment on dit délicat en hébreu? Adin. Vous connaissez le jardin de... C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est donc le jardin de Eden? Le jardin de la délicatesse, de la finesse. Or, même jardin, c'est une traduction en français, ça ne veut rien dire, le jardin. En hébreu, c'est gan. Qu'est-ce que c'est gan? Gimel nun, le corps, gouf, et nun neshama. Dans gan eden, c'est le corps et l'âme qui ont trouvé leur finesse, l'harmonie ensemble. Oubliez le jardin d'Éden avec des bandes dessinées et un homme et une femme en train de se mettre des branches de je ne sais quoi pour garder. Vous comprenez que si Chas v'Shalom, on ne comprend pas tout ça, la Torah devient une bande dessinée. Alors que nous sommes dans une Torah tellement supérieure que malheureusement, on n'a pas encore cette écoute. Et mon rêve le plus cher, c'est justement qu'on commence à enseigner cette Torah. Et c'est pour ça que je viens, avec beaucoup d'humilité, vous donner en fait une Torah qui est un petit peu plus profonde, un petit peu plus élevée. Parce que je vous respecte. Parce que je sais que vous êtes capable, parce que vous êtes dans une génération qui est capable d'entendre quelque chose de plus haut que de vous dire « Faites comme ça, et ne pas faites comme ça, et c'est Assur ici, et c'est Moussar ici. » Ça suffit, quoi. Ça fait 2000 ans qu'on vous bassine la même chose. Donc il faut s'en négliger cette partie de la Torah, savoir aussi donner le sens profond de ce degré. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que le mot « raz » en hébreu, « secret », a donné naissance à un mot latin « ésotérique ». « Raz » c'est la même racine. C'est-à-dire ésotérique, c'est la Torah des secrets, donc la Torah des maigres, la Torah de la finesse, de la délicatesse. Alors pourquoi je vous parle de cette Torah aujourd'hui et que le cours est complètement converge vers cette Torah-là? Parce que nous sommes dans la période la plus secrète entre Pessah et Shavuot. Il y a 7 semaines, entre Pessah et Shavuot, et nous sommes aujourd'hui dans la 5e semaine. C'est-à-dire hier, on a compté 32 jours du Homer. Aujourd'hui, on est le 32e jour du Homer. Ce soir, ça va être l'Agba Homer. Par contre, j'ai le droit de le dire encore parce que ce n'est pas encore l'après-midi. Sinon, je n'ai pas le droit, ça me coupe le conf du Homer. Mais comme on est encore fin de matinée, je peux vous le dire. Mais... donc on est aujourd'hui le 32e jour du Homer, qui fait 4 semaines complètes, plus 4 jours de la 5e semaine. Or, les 7 semaines de tout ce compte du Homer, c'est en réalité une sortie d'Égypte pour atteindre ce que je vous ai dit tout à l'heure, la fécondation, pour avoir un rapport intime avec Akadosh Baruch Hu. Donc quand est-ce qu'on va avoir ce rapport intime avec Akadosh Baruch Hu? Shavuot. Donc Shavuot, comment ça s'appelle? Zman Matan Toratenu. Traduction, le jour du don de la lumière, pas de la Torah. Torah ne veut pas dire Torah, ça ne veut rien dire Torah. Vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Vous avez l'impression qu'on parle d'un livre. À Shavuot, on n'a pas reçu des bouquins, on n'a rien reçu, on a reçu la lumière divine. Il n'y a rien qui est descendu du ciel à Shavuot. Hein? Attention, hein. Ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné ce qu'il y a à l'intérieur de cette armoire, il nous l'a balancé dessus. Rien du tout, rien. Il n'y a même pas un texte, il n'y a rien du tout, que des voix, c'est tout. Même les premières tables n'ont pas été données à Shavuot. Elles ont été données plus tard, le 17 Tammuz, et elles se sont cassées. Donc la fête de Shavuot que vous allez vivre, que nous allons vivre, Be'ezrat Hashem, dans 3 semaines, c'est quoi? C'est le don de la lumière divine. C'est tout. Qu'est-ce que c'est que cette lumière divine? C'est tout. Quand je dis c'est tout, c'est pas péjoratif. C'est tout. C'est ça la vraie Torah. Comment ça s'appelle ce qu'il y a dedans, là, dans cette armoire? Un Sefer Torah. C'est pas pareil que la Torah. C'est le livre. C'est recopier la lumière sur un parchemin. Vous comprenez la différence? Alors si je vous pose maintenant la question sur quel matériau, sur quelle matière a été écrite la Torah, qu'est-ce que vous me répondez? Sur, encore, vous tombez dans le piège. C'est en nous, c'est dans la vie. C'est la trame du monde, de la vie. Ça, c'est le livre de la Torah. Je ne vous ai pas demandé sur quelle matière a été écrite la Torah quand elle a été écrite. Le livre. Ro'im et ha'kolot, bien fait. Ça veut dire quoi? Qu'on voyait des sons. Autrement dit, nos sens étaient tellement dans l'unité que je pouvais entendre avec mes yeux. Et je pouvais voir avec mes oreilles. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un niveau où tous les sens sont dans l'unité. Adam Arishon, avant la faute, comment est-ce qu'il arrivait à dire des noms de quelque chose qu'il voyait? Vous savez que les noms qu'on a aujourd'hui, c'est Adam Arishon qui les a donnés. Par exemple, il y a une vache qui se balade dans la rue. Qui a appelé la vache Para en hébreu? Adam Arishon. Comment il a fait? Eh bien, tout simplement, ses sens marchaient tellement bien qu'en voyant, il entendait, il touchait, il parlait, tous les sens étaient mélangés, il savait que c'était para, trois lettres, P, Re, He, qui veut dire Pérou ou vous, c'est-à-dire la fructification. D'ailleurs, le mot fruit en français vient du mot para. Para, c'est péri, en hébreu. En français, fruit, c'est la même chose. La fête dans l'année qui correspond, c'est Pourim. Pourim, c'est la fécondation. Mais on n'entend plus rien, parce que pour nous, Pourim, c'est un déguisement pour les enfants. On a tout oublié parce qu'on n'étudie pas cette Torah des secrets. Je reviens. Adam Arishon avait ce degré-là. Après, il a perdu à cause de sa faute. Donc aujourd'hui, on entend plus ou moins avec les oreilles. On entend beaucoup plus de bêtises que de vérités. On voit avec nos yeux, mais on ne voit rien du tout en fait, parce que nos yeux sont très très limités, on nous fait voir ce qu'on veut nous faire voir. On sent ce qu'on a l'impression de sentir, alors qu'en réalité on devrait sentir des choses beaucoup plus fines. Le roi Mashiach, quand il va venir, il va nous sentir, un après l'autre. Vous allez juste être à côté de lui, il va faire comme ça. Toi tu dois habiter tel endroit, ta neshama est de telle racine, juste avec l'odeur. C'est marqué « Verharicho veir atashem ». C'est-à-dire le Mashiach va avoir un sens de l'odorat très, très développé. Vous n'avez jamais vu ça. C'est d'ailleurs de là qu'est venue l'expression « Je ne peux pas te sentir ». Je ne rigole pas. Ça veut dire que c'est un sens qui est très profond à la base, mais on l'a gâché, comme tous les sens. Le toucher aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. On a l'impression de toucher des choses, mais on ne comprend pas parce que c'est superficiel. Mais il y a un certain niveau où quand tu touches quelque chose, tu reçois l'information de tout l'ADN de la chose que tu es en train de toucher. C'est comme ça qu'on devrait arriver à ce niveau-là. On est loin encore de ça. Mais en réalité, ce sont nos vrais sens. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a offert. Et on les a gâchés, tous ces sens. Donc nos cinq sens, il y a un problème parce qu'on est à chaque fois dans l'un d'entre eux. Donc on est dans l'un des sens. Alors qu'on devrait être dans les cinq sens en même temps et savoir voir avec tout ce que je suis. Donc quand je vous ai dit, par exemple, avec quel sens tu étudies la Torah? Avec les cinq. Et si tu étudies la Torah seulement avec ton cerveau, tu comprends que tu n'as rien compris à ton étude. C'est seulement une information qui est en train d'ingurgiter. Alors des informations, j'en ai pas besoin, j'en ai plein. Vous tapez sur Internet, il y a plein d'informations. On en mange toute la journée. C'est pas ça la Torah. C'est pas aller à un cours pour entendre une information. La Torah, elle doit me pénétrer. Elle doit faire un travail en moi. Elle doit me féconder. Je dois tomber enceinte et je dois accoucher de Chidushim. Ça, c'est un vrai étude. Ça, c'est une vraie étude de la Torah. On a du travail. Moralité, je vous ai dit que entre Pessach, la sortie d'Égypte, et Shavuot, le don de la Torah, nous avons 7 semaines. Alors à la sortie d'Égypte, nous sommes sortis de l'impureté, comme une femme qui a fini de boire du sang. D'ailleurs, la première plaie, c'était dame, le sang. Donc la femme maintenant commence les 7 jours de pureté, de propreté, Shiva Nekiim. Seulement comme c'est l'Assemblée d'Israël, c'est une grande femme, au lieu de compter 7 jours, elle compte 7 semaines. Et c'est ça la Sfirat HaOmer. Donc chaque soir, on compte, voilà combien de temps il me reste pour arriver à quoi? Au mikvé. Et après le mikvé, il y a un rapport avec Akadosh Baruch Hu. Et si je me prépare comme une femme qui compte les 7 jours pour retrouver son mari, c'est ce que l'Assemblée d'Israël devrait faire quand il compte le Homer. C'est-à-dire toute cette période-là, ce n'est pas une période de deuil, c'est une période d'attente, de retrouvailles avec l'infini qui va nous féconder avec ces 22 lettres de l'alphabet hébraïque qui sont en réalité les gouttes de semence. Et nous allons tomber enceinte de toutes ces 22 lettres qui vont en réalité former des milliards et des milliards de combinaisons de lettres qui vont en fait être des bébés. Parce que qu'est-ce que c'est un bébé en hébreu? Valad, Yeled, Ben, c'est un binyan. C'est-à-dire une construction. C'est tout. Donc si on ne sait pas construire, il y a un problème. Par exemple, j'ai 3 lettres. Combien de mots je peux écrire avec 3 lettres? 6. Ah oui. Par exemple, j'ai le mot Shabbat, il y a 3 lettres. Eh bien, je peux écrire Shabbat, je peux écrire Boshet, je peux écrire Tashuv, je peux écrire Shatab, je peux écrire Teshet, vous comprenez? Je vous ai déjà dit 6 mots avec 3 lettres. Avec 4 lettres, combien de mots je peux écrire? Non. Non, ça s'appelle factoriel 4. Donc 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc 4 fois 3, 12 fois 2, 24, fois 1, 24. Donc avec 4 lettres, je peux écrire 24 mots. Ça commence à se compliquer. Avec 5 lettres, 5 fois 4, 20, fois 3, 60, fois 2, 120, fois 1, 120. 6, alors imaginez-vous 22 lettres. Avec 22 lettres, je peux écrire une infinité de combinaisons, et chacune d'entre elles, de ces combinaisons, c'est un bébé. Et si je de beau bébé, eh bien, tout ce que je vais sortir de ma bouche comme verbe, en réalité, ce sont des enfants. Donc je peux ou construire quelqu'un, alors je l'appelle Binyan, ou bien Chas v'Shalom, je détruis quelqu'un, par mes mots. Parce que les combinaisons sont des enfants vilains, ou des bons enfants. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent attention avec votre parole, parce qu'en réalité, c'est avec ça que le monde tient. Et parfois, vous vous auto-condamnez. En disant, par exemple, ah, jamais j'y arriverai. Et c'est tout. Toi-même, tu as fixé que jamais tu arriveras. Phrase de Khalil. Vous comprenez comment ça marche? Alors que quand tu dis, je suis bon, je réussirai, et Akadosh Baruch Hu est avec moi, tu t'ouvres les portes. Je n'arrive pas. Il y a un ange qui passe, qui te dit « Amen !» Tu n'y arriveras jamais. Je vais y arriver. J'arrive. Je fais. Je réussis. C'est comme ça qu'on développe un pays. En 70 ans, on est capable de faire ce que les autres, ça leur faut 2000 ans. Et encore. Quel qui nous avait pas su tuer 6 millions de cerveaux gris, de matière grise, aujourd'hui on serait sur Mars. En réalité, ils se sont auto-condamnés en tuant des juifs. Ils comprennent pas que c'est la lumière du monde. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, un Israélien de 25 ans peut créer un cœur. Pas artificiel, un vrai cœur avec des cellules, avec une imprimante qu'il a acheté au magasin. Là. Une imprimante 3D, hein. Ça existe, je peux en acheter une, ça coûte 4000 shekels. Eh bien, il a, au lieu d'imprimer un petit truc que tu voyais sur Internet, un petit cube, un petit machin, non, non, les Israéliens, ils vont très très haut. Je vais faire un cœur. Ça veut dire, dans 10 ans, on va pouvoir créer un cœur humain dans une impression 3D avec des cellules humaines, et le type, il va à l'hôpital, il est malade, on lui enlève le premier, on lui met le soin. Comme un garage. Rentrez au garage, on vous change le cœur. Et donc, vous vivez encore 200 ans. C'est incroyable, ça. Incroyable. Alors si je peux le faire avec un cœur, vous comprenez que je peux le faire avec tout. Donc on va avoir des pièces de rechange. Incroyable. Incroyable, et ça existe. Et si tu ne sais pas où aller, eh bien tu vis en Israël, s'il y a un petit jeune avec son copain de 25 ans qui vont te créer un Waze. Donc maintenant ça va diriger le monde entier. Donc partout dans le monde maintenant, on utilise le Waze, qui est une invention israélienne, de deux petits jeunes qui vient de sortir de faire une fin d'études, et qui te dirige le monde en réalité. Bien, tout le monde est dirigé par le Waze, même en arabe il parle. Vous comprenez ce qu'on est en train de donner à l'humanité, nous ? Comprenez ? Que du bien on est en train de donner à l'humanité. Alors qu'à côté, qu'est-ce qu'on offre à l'humanité, Chas v'Shalom ? Je ne veux même pas dire le mot. Vous comprenez le bien, et si les nations du monde comprenaient ce secret-là, mais la haine est tellement forte qu'elle les étouffe et les aveugle. C'est la jalousie. C'est pas par hasard que les Chachamim nous disent que au moment du don de la Torah sur le mont Sinaï, pourquoi on a appelé ça Sinaï ? Parce que deux choses sont descendues en même temps. Sina, la haine, en même temps que la Torah. Je reviens. Les sept semaines, donc, sont des sept semaines de purification, de comptage de ce qu'il me reste en retrouvant mon bien-aimé, Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les kabbalistes, le soir de Shavuot, de la veillée, à la nuit, vers 4h du matin, ils vont au mikvé. Pour justement, comme la femme qui a compté, qui a fini, elle va au mikvé, pour justement avoir un rapport, et ce rapport-là va être toute la Torah que je vais avoir pendant toute l'année, jusqu'à Shavuot prochain. Donc la Torah que je vais recevoir à Shavuot dépend, pas seulement du soir de Shavuot, mais de toute la période où j'ai langui les retrouvailles avec mon bien-aimé, c'est-à-dire toute Sfirat HaOmer. Et ça dépend du premier jour, parce que le premier jour c'était Pessah. Et Pessah c'était quoi ? La sortie d'Égypte. Et sortir de quoi en réalité ? Sortir de mon individualité et comprendre que je suis un peuple. Et si j'ai compris à Pessah que je suis un peuple et que j'ai compté comme un peuple sept semaines de purification et que j'attends comme une bonne femme, une bonne épouse, les retrouvailles avec mon bien-aimé, eh bien je vous garantis que la Torah que tu reçois à Shavuot, c'est pas la même que celui qui était individuel et qui s'est dit, moi je suis religieux, c'est pas du tout le même niveau. Là, c'est une nation. Alors que toi, tu es en train de me parler de toi-même. Ça, c'est la force de Am Yisrael. Et cette semaine, parmi les sept, nous sommes dans un degré très spécial. Alors, pour comprendre ces sept degrés, je suis obligé un tout petit peu de lever le niveau et de vous expliquer en réalité ce que nous devons compter, à quoi nous devons penser pendant les sept semaines de purification. Ça devrait aider normalement les femmes qui ont encore leurs règles de savoir à quoi elles doivent penser chaque jour des Shiva Nekiim. Parce que les femmes comptent, mais ça fait le soir, je fais une dika, j'ai pas de sang, ça va, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, je sais que j'ai mon mikvé jeudi soir. Maintenant, si tu sais à quoi penser chaque jour, et quelle est la vertu que tu dois corriger en toi, mais ça change complètement les retrouvailles, eh bien, l'Assemblée d'Israël, c'est la même chose. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. La première semaine qui correspond au premier jour chez la femme, à quoi elle doit penser cette femme ? À la bonté. Une semaine entière, je suis dans le don, dans l'amour, dans le partage. Ce qu'on appelle chesed en hébreu. Et la femme qui a ses règles, quand elle a fini de boire du sang, la première journée où elle compte, elle doit penser, je suis dans le don. J'inverse. Parce que le sang, c'est quoi ? C'est la réception. Maintenant, je suis en train de me corriger. Je vais dans le partage. Deuxième jour pour la femme, deuxième semaine pour le peuple d'Israël, les limites. Alors, je suis bonne, mais je ne suis pas... J'ai rien dit, hein. C'est-à-dire, il y a des limites. À qui je donne, quand je donne, quelle quantité je donne. Il faut des limites à chaque chose. Si tu ne sais pas donner les limites dans ta vie, t'es mort. Il y a des jours où il ne faut pas. Il y a des jours où on peut. Il y a des jours où il faut. Il y a des jours où il faut que tu parles. Il y a des jours où il faut que tu te taises. Il y a des moments où tu dois parler. Il y a des moments où tu dois te taire. C'est la même chose. Ça, c'est la deuxième semaine. Donc la femme, le deuxième jour de ses Shiva Nekiim, doit se dire, je dois donner des limites dans ma vie. Il y a plein de choses qui dépassent complètement. Je parle un petit peu trop dur, je sors des choses qui dépassent ma pensée, j'arrive pas à contrôler, à mesurer les choses dans ma vie, je suis toujours trop. Donnez des mesures. Ce qu'on appelle des midot. Des shiurim. Qu'est-ce que c'est un shiur? C'est un cours? Une mesure. Voilà, à un moment donné, je dis que le shiur, la mesure est terminée, je dis stop. S'il n'y a pas de chiour, s'il n'y a pas de limite, les gens ils explosent, ils n'en peuvent plus. Même dans l'amour, attention. Hein. Quand vous aimez quelqu'un et que vous ne savez pas l'aimer, vous l'étouffez. M'chabosso ammao en français. Il est allé pour l'embrasser, il a enfoncé le menton dans l'œil. Vous connaissez ces petits enfants qui viennent, mamie, paf, il se met un coup de menton dans l'œil. C'est un bleu comme ça pendant 3 semaines. Il voulait m'embrasser. Mais c'est la même chose. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Leur amour, c'est de l'étouffement. Donc ils doivent faire attention d'aimer en lâchant un petit peu pour ne pas que l'autre, l'être aimé, se sente étouffé. C'est plus de l'amour. Ça, c'est la deuxième semaine, donc le deuxième jour. Regardez comment c'est important. Hein. Troisième jour, troisième semaine, à quoi doit penser la femme? À l'équilibre. Alors maintenant que j'ai eu l'amour la première semaine ou le premier jour, les limites le deuxième jour, je dois trouver maintenant un équilibre. Donc la troisième semaine, c'est la semaine de l'équilibre. Donc l'équilibre en hébreu, Tif Eret, qui a donné naissance au mot français thérapie, c'est la même chose. Quand tu es dans l'équilibre, tu es en bonne santé, donc c'est la thérapie. Thérapie égale équilibre. C'est tout. Quand vous êtes malade de quelque chose, c'est que vous avez un degré qui est plus haut que les autres. D'accord? Vous allez à la coupe à trolim, on vous fait une prise de sang, vous avez deux petites étoiles avec des petits points dedans, et vous dites, ah, je suis sorti. Si tu es sorti de l'équilibre. Il y a un problème. Il y a trop de sucre, il y a trop de machin, il n'y a pas assez. Non, l'équilibre, il y a tout. D'ailleurs, le mot tif RS a donné naissance au mot rofé. Le rofé, il est au milieu. C'est la centralité, c'est-à-dire l'équilibre. C'est l'anagramme. Nakhon, nakhon. Quatrième semaine, quatrième jour pour la femme, quatrième semaine pour l'Assemblée d'Israël, vous me suivez, hein?
Oui, 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 oui.
Netzach. Netzach, c'est quoi Netzach?
L'éternité
ou la victoire, Nitzachon. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose dans ma vie, je continue. Il y a plein de gens qui commencent, ah, je me suis inscrit au sport. Combien de fois tu as été? 2 fois. Tu as fait du sport dans ta vie? Ouais, j'étais dans une salle incroyable. Combien de fois? 2. C'est quoi ça? Tu n'as rien fait. Tu ne sais pas continuer. Tu commences quelque chose, tu arrêtes au milieu. Jamais tu n'as rien fait de continuel dans ta vie. Pourquoi? Parce que le quatrième jour de la Sphira, tu n'as pas pensé à être éternel dans ce que tu fais. Donc tu ne ressembles pas vraiment à Kadosh Baruch Hu, alors que tu devrais le ressembler. Puisque Kadosh Baruch Hu s'appelle Netzach Israël. Parce que chez lui, quand il fait quelque chose, ça continue. Et pourquoi toi tu t'arrêtes à chaque fois? Exactement. Exactement, c'est la persévérance. Donc Netzach. Cinquième semaine, la nôtre. Cinquième jour, Hod. Qu'est-ce que c'est Hod? La beauté. Facile. Hodaya. Je remercie. Hodaya. Hod. Les hodot. Qu'est-ce que c'est les hodot en hébreu? Pas seulement remercier. Reconnaître. En hébreu, animodé. Ça veut dire je reconnais et aussi je remercie. D'ailleurs, ça va ensemble. Hein. Ceux qui reconnaissent peuvent remercier. Ceux qui ne reconnaissent pas, par exemple, que Dieu était là pendant la création de l'État d'Israël ne peuvent pas le remercier, donc ils ne vont pas dire Hallel le jour de Yom HaAtzmaout. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la présence de Dieu dans cet événement. Chas v'chalila. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu est partout dans l'histoire, à la française, Ashgacha Pratit, sauf à la création de l'État d'Israël. C'est le seul jour depuis la nuit des temps où Akadosh Baruch Hu s'est dit non, ça m'intéresse pas, je suis pas dans l'histoire. C'est de la foutaise, c'est du grand n'importe quoi. Alors ça s'appelle Hodaya et Hoda'a. C'est-à-dire je remercie parce que je reconnais. Quelqu'un qui est capable de reconnaître est capable de remercier. Animoté, animoté. Les deux degrés.
C'est les âmes qui n'ont pas mis Dieu ce jour-là.
Micha?
C'est les âmes qui ont mis Dieu ce jour-là. On n'a jamais dit que c'était Dieu.
D'accord.
Non, c'est pas vrai.
D'accord.
C'est les âmes qui n'ont pas, ils n'ont pas pensé à Dieu.
C'est,
exact,
c'est exactement ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'ils disent que Dieu était partout dans l'histoire, sauf ce jour-là. C'est ce que je suis en train de dire, les hommes. Mais badaï. C'est pour ça qu'ils ne savent pas remercier ce jour-là. C'est pas Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est dans toute l'histoire. C'est un problème. C'est un problème très grave. Un problème très grave de savoir voir les choses quand elles se passent. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se passeront pendant toute la période de la Géoula et beaucoup de gens vont passer à côté parce qu'ils attendent quelque chose qu'ils ont étudié dans leur centre d'études qui ne correspond pas à ce qu'ils voient. Alors, qui a raison ? Dieu ou le rabbin avec qui j'ai étudié ? Je mets le doigt sur un grand problème et j'ai pas peur de mettre le doigt sur un grand problème. D'accord ? Je mets un grand coup de pied dans la fourmilière. Et celui qui a un problème, qu'il vienne me voir. Parce que j'ai des références à lui donner. C'est vrai ? Donc il y a un problème ? Je passe. Cette semaine-là, je vais arrêter un petit peu sur cette semaine de Hod. On a qui à l'intérieur de cette semaine ? Deux personnages extraordinaires de notre histoire d'Israël. Rabbi Meir Baal Hanet et Rabbi Shimon Bar Yochai. Zechutam Tagen Alenu Amen. Ça veut dire que ces deux phénomènes du peuple d'Israël, qu'est-ce qu'ils avaient en commun ? Ils étaient sionistes. Je rigole pas. C'était deux soldats de Tzahal de l'époque qui n'avaient que pour but de fonder l'État d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont fait la révolte de Bar Kokhba pour créer l'État d'Israël, qui n'a pas marché à cette époque-là, et qui, Baruch HaShem, devait être le mois de Iyar, puisque se sont battus le mois de Iyar, et Baruch HaShem, 2000 ans plus tard, le même mois de Iyar, nous on a réussi. Incroyable. Terrible, non ? Et la Gemara va me dire, si tu n'as pas vraiment conscience qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce phénomène qu'on appelle Médinat Israël, parce que ça a été fait par des gens non religieux. Oh, oh là là. C'est-à-dire, Dieu, il s'est trompé, il s'est planté. Okay. Tu vas lui dire comment faire sa Géoula. C'est extraordinaire quand même. Quel orgueil. Eh bien, tu vas rentrer dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, et tu vas voir que les sages nous disent que selon les heures où le premier homme a été créé, chaque heure, on a dit ce qui s'est passé. Or, David HaMelech nous donne une règle. Qui est le shanim be'enecha ke yom etmol ki avor v'ashmura balayla. Traduction. Un an. Mille ans. Pour l'homme, c'est un jour pour Akadosh Baruch Hu. Alors c'est facile. Quand est-ce que le premier homme a été créé ? Le sixième jour. Donc en réalité, la Gemara nous dit que le premier homme, celui qui s'appelle homme, qui c'est l'homme, c'est Israël, va apparaître dans l'histoire quand ? Le sixième millénaire. Facile. Mais comme le premier homme n'a pas été créé la nuit, donc je suis obligé d'enlever du sixième millénaire 500 ans. C'est la moitié de 24 heures. Donc il me reste plus que 12 heures. Vous êtes avec moi ? Pas encore ? Vous avez perdu le truc ? Combien vous étiez en match ? Combien de Yéridot ? Adam Arishon n'a pas été créé la nuit, il a été créé le jour. Donc des 24 heures, j'enlève 12 heures de nuit. Donc il ne me reste que 2 heures de la journée. Or, 12 heures de la journée, par rapport à 1000 ans, c'est 500 ans, c'est la moitié. Voilà. Donc, maintenant, je dois savoir combien, en 500 ans, il y a d'heures, selon le compte que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on divise, en fait, les 500 par 12. Ça donne à peu près 42,8. 42,8, maintenant, je vous le traduis. Chaque heure d'Akadosh Baruch Hu dans le sixième millénaire, c'est 42 heures, 42 années, 8 mois. Vous êtes avec moi ? Donc la Gemara va commencer à partir de 5500, puisque c'est le début, et elle va commencer 42 ans, 42 ans, 42 ans, 42 ans, combien de fois il y a ? 12. D'accord, c'est tout. Et la Gemara va nous dire, à la première heure de ces 42 années, l'homme, quand il a été créé, il a été façonné par de la terre glaise. Et le deuxième heure, il a été tiré. Et le troisième heure, il a été façonné. Et la quatrième heure, il a mis des os. Et à la cinquième heure, il s'est dressé sur ses jambes. C'est facile. Tu fais 5 multiplié donc par 42,8 plus 5500, tu arrives à 5708, 1948, la création de l'État d'Israël. C'est le moment précis où l'homme a pu se dresser sur ses jambes, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui s'est dressé sur ses jambes. De là, le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, a dit à ses élèves, Birbalek, okay, il n'aura pas parlé en arabe, mais c'est la même chose, faites très attention, pendant toute la période du Homer, je vous demande, il y a 250 ans, hein, de vous habiller en habit de fête et de faire un jour de fête, 2 jours pendant toute cette période du Homer. Le vin du Homer est... Le vin du Homer est le... Pas 49, 49 c'est déjà Shavuot, c'est fini. Non, en français c'est l'Akba Homer, c'est vrai, mais... Peu importe. Yom Yerushalayim. Ça veut dire que le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, a dit les 2 jours où il va falloir faire une fête pendant le Homer, alors qu'il n'y avait ni État d'Israël, ni Yerushalayim, ni quoi que ce soit. Il a dit à ses élèves, Yom Ha'atzmaout et Yom Yerushalayim, vous me faites le plaisir de faire une fête. Et les élèves de lui dire, mais qu'est-ce qui se passe là pendant ces jours-là? Il dit, à l'avenir on saura, aujourd'hui vous ne savez pas. Ça vous plaît?
Oui.
Vous voulez encore une?
Oui.
Ok. David Ameler. C'est le sens de la vie. Pourquoi? Les kabbalistes nous disent que le monde doit exister comme les 3 lettres du mot Adam. Adam. Il y a combien de lettres dans Adam?
3.
Aleph de Adam, c'est qui? Adam lui-même. Dalet de Adam, c'est qui? David. Et même Mashiach. C'est facile, facile. Donc nous disent les Chachamim, tu prends le temps entre Adam et David, ça sera multiplié par 2, ce qui va se passer entre David et Mashiach. Facile. Quelle année il est né David? 2854. Donc 0 jusqu'à 2854, David Amelech multiplie par 2, 5708, 1948. Ça veut dire la début du Mashiach, c'est la création de l'État d'Israël. Vous voulez encore? Ça ne s'arrête pas, Rabotai. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut devenir aveugle pour Chas Veshalom dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas dans cet événement, c'est ne rien comprendre à la Torah. Quel? Oui.
Le royaume d'Israël.
Oui.
Comment il s'inscrit dans
cette... Eh bien, c'est de ça que je parle. La création de l'État d'Israël, c'est un royaume d'Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer que nous sommes dans le royaume d'Israël, même si ce royaume n'est pas encore, selon l'idéal, complètement divin. Et quoi? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je peux me permettre de dire ça? Vous allez me dire, mais le gouvernement, ils ne savent pas chômer Shabbat, ils ne sont pas... Mais tout simplement parce que j'ai une histoire, ça s'appelle le Tanakh. Dans le Tanakh, il y a tous les rois d'Israël. Combien parmi eux étaient religieux, chômer Shabbat? Et pourtant, on les appelle les rois d'Israël. Donc le royaume d'Israël n'est pas synonyme de Shomer Shabbat ou pas. Ça n'a aucun rapport. Donc arrêtez de croire que parce que l'autre il n'est pas Shomer Shabbat, qu'il a perdu complètement son degré de royaume. Sinon on aurait tout dégagé du Tanakh, il n'y a plus aucun roi d'Israël. Ça ne veut rien dire, vous ne comprenez même pas de quoi vous parlez. Je reviens. Cette semaine-là, de la 5e semaine donc du compte du Homer, c'est la semaine du Hod, donc du remerciement. Donc il faut savoir remercier. Il faut savoir reconnaître. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal Hanes faisaient partie des 5 élèves de Rabbi Akiva après que les 24 000 soient morts. D'ailleurs, ce n'est pas exactement 24 000, hein, c'est 23 980 et quelques. c'est exactement le même chiffre de mort des soldats d'Israël qui sont morts depuis la création de l'État d'Israël à aujourd'hui. Je peux continuer jusqu'à demain, je vous garantis. C'est pas juste que je suis en train de vous raconter des salades. Ça veut dire que ceux qui sont morts là-bas à l'époque de Bar Kokhba pour la création de l'État d'Israël qui a échoué à l'époque, on l'a réussi cette fois-ci, Baruch Hashem. Kadosh Baruch Hu nous a donné la bracha de réussir ce qu'ils n'ont pas pu réussir il y a 2000 ans. Le Rav Harlap, c'était le Rosh Yeshiva à l'époque du Rav Kook, dans la Yeshiva du Rav Kook. Mais ce n'était pas un Dati Leumi. C'était un Haredi qui a changé complètement sa vision du judaïsme. Et il a compris en fait, et à un moment donné, il a poussé une gueulante et il a dit sur un Talit Katan, il appelle un smartout, une serpillère. Il a dit, quand tu t'achètes une serpillère, tu dis, Shechianu vekiimanu veyanu lazmanazé. Et pour la création de l'État d'Israël, tu ne dis pas, t'as pas honte. Pour une serpillère, tu remercies Dieu, et pour l'État d'Israël, pour les Juifs, tu ne sais pas le faire. Mais où on a vu une chose pareille, tu es vraiment fatigué. C'est pour les Algériens, fatigués et malades, hein, que vous le sachiez. Très fatigués, c'est l'Aïtor. Il y a des codes, il faut savoir. Il dort, non, il s'allonge. On ne sait pas pourquoi, il dort jamais. Tu as dormi, non, je me suis allongé. C'est-à-dire, je faisais un demi-mètre, je suis maintenant 2 mètres, je me suis allongé. Il a ronflé et tout, mais il n'a pas dormi. C'est interdit de dormir. Je me suis allongé. Elle est belle, elle est mignonne. Ça veut dire qu'elle est light-up. C'est des expressions, c'est des codes, il faut savoir. C'est des expressions. Je reviens à notre système. Pendant la nuit de Pessah, vous avez parlé de la Haggadah d'Achon. Vous vous rappelez qu'il y avait un certain récit dans la Haggadah de Pessah où on vous raconte qu'il y avait des maîtres qui étaient assis pendant toute la nuit et que les élèves sont venus au lever du jour et leur ont dit « Oh, c'est l'heure de Kriyat Shema ». Qu'est-ce qu'ils faisaient ces rabbanim ? Ils étudiaient ? Pas du tout. Ils étaient en train de préparer la guerre pour l'indépendance de l'État d'Israël de cette époque, la révolte de Bar Kokhba. Pourquoi ils le faisaient à Pessah, ils n'ont rien d'autre à faire ? C'est parce que c'est à Pessah qu'on est sorti d'Égypte. Donc c'est une journée où on peut avoir une Asmaout, une indépendance. Donc ils ont travaillé l'étude de la Torah sur quoi ? Sur comment faire pour réussir à fonder l'État d'Israël de cette époque. On leur doit beaucoup. Ils n'ont pas réussi à cette époque, mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le faire. D'ailleurs, la Gemara nous dit comment sont morts les 24 000 élèves. Par une épidémie, non ? Comment elle s'appelle cette épidémie ? Askara. Qu'est-ce que c'est Askar ? Les soldats à l'armée en arabe, ça veut dire qu'ils sont morts à l'armée, tout simplement. C'était des lochamim de Tzahal. C'était des guerriers de Tzva Hagana l'Israël de cette époque. C'est tout. Ils sont morts à la guerre. Parce que je suis venu pour que vous le sachiez. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous savez, on ne dit pas toujours tout selon ce que tu es. Un jour, j'étais à Nice et je donne un cours. Et il y a une vieille dame qui me dit, monsieur rabbin, pourquoi les rabbins d'ici ne nous disent pas ce que vous nous dites ? Alors j'ai répondu avec la même voix, parce que tous ceux qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. C'est tout. C'est ce que vous voulez que je fasse. Moi, j'ai pour but de ne pas mentir. J'ai grandi dans une yeshiva qui était anti-sioniste. Et le jour où j'ai compris que je me trompais dans ma vision des choses, j'ai pas eu peur de tout changer. Parce que je veux être avec la vérité et avec la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu de ce qu'il me donne. Quand j'ai un enfant qui naît, même s'il fait pas des choses très bien, c'est encore mon enfant. Alors si l'État d'Israël, c'est un bébé qui vient de naître et il fait ses besoins dans la couche, je sais pas s'il y a une maman ici qui jette la couche avec le bébé. Je jette la couche qui est sale, mais le bébé, c'est un sadique. Eh bien, c'est la même chose l'État d'Israël. L'État d'Israël peut faire des bêtises, mais l'État d'Israël, c'est divin. Je jette la couche et je garde le bébé. Et il va grandir. Et Baruch HaShem, regardez, vous croyez que c'est réussi? Si Dieu n'était pas là-dedans, il y aurait tous ces réussites. Le shekel est aujourd'hui la monnaie, une des monnaies les plus élevées du monde. Incroyable. Rabotaille. Vous savez même pas la bracha que vous me donnez. Ça veut dire que 60 ans vous avez souffert. Et je suis venu aujourd'hui pour vous guérir de cette souffrance. Vous allez chercher. Il y a Fenor. Je vais vous l'envoyer. Envoyez-moi votre numéro de téléphone. Je vous envoie tout par ici. C'est Ezra Tachem. Il faut arrêter de tout amener vers quelque chose qui... Ça peut pas marcher. À un moment donné, tu es bien conscient que tu es obligé de voir la vérité en face. C'est fini. Vous savez, ceux qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël, mais ce sont nos ennemis. Ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur jouent le même jeu que BDS, que toute la bande de l'extérieur. Et que, en premier lieu, qui? Les chrétiens. Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Vous ne pouvez pas avoir l'État d'Israël puisque vous êtes maudits. Eh oui, la chrétienté dit, et l'islam aussi, puisque Israël a été maudit, c'est pas possible qu'il ait un État. Donc s'il a un État aujourd'hui, c'est un État, face de shalom, de n'importe quoi. Exactement ce qu'on peut entendre de l'intérieur de nous. Alors quoi, tu joues le jeu des anti-juifs à l'intérieur de ton peuple? Mais qui est fatigué. Nous, on dit que le peuple d'Israël est béni, mais les nations du monde nous disent qu'il nous a changé avec une autre femme. Il a trouvé une femme plus belle, donc il y a dit à sa première femme, Israël, va te cacher. Et d'ailleurs, à l'entrée de l'église, vous avez les yeux bandés, avec une femme et les yeux bandés, c'est Israël, elle s'appelle synagogue. Eh oui, rentrez, regardez sur Internet, marquez synagogue, vous allez voir à la petite France, à Strasbourg, par exemple. Quand vous rentrez, juste devant, il ne faut pas rentrer, mais à l'intérieur, avant, dans la porte, il y a deux femmes, une à droite, une à gauche. Celle qui est à gauche, elle a comme ça, elle est toute fière, c'est la chrétienté. Celle qui est à droite, elle a la tête baissée avec un foulard autour des yeux, c'est le judaïsme. Justine, toi, ferme-la maintenant, nous, on a pris ta place. C'est ça. Et vous, encore, vous continuez à dire, je vais prier dans une synagogue. Magnifique. Ça, c'est encore dans le meilleur des cas. Parce que sinon c'est la choule. Beth Knesset, c'est ce qu'on doit dire, c'est tout. Choule, c'est en allemand, cette sphère-là, quelle est son importance, la cinquième sphère? Je vous ai dit que c'était le fait de remercier. Mais pourquoi tu remercies? Parce que tu es en train de t'approcher de la dernière. Il nous reste combien de semaines?
Deux.
Donc il y a Yesod, la semaine prochaine, et Malchut. Malchut, c'est la royauté. Donc en réalité, cette sphère-là, qui représente la dernière lettre He, qui est la sphère de Hod, elle est la sphère la plus proche, qui commence à construire la Malchut. Maintenant, vous comprenez pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai dit que toute sa vie n'a œuvré que pour une seule chose, que pour que le peuple d'Israël soit souverain sur sa terre. Comment on appelle ça? Médina. C'est tout. Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le monde allume des bougies, hein? Ah, Rabbi Shimon, oh, ça c'est... Mais est-ce que tu sais qui est le personnage? C'est un Léoumi Dati. C'est lui qui a œuvré pour Médinat Israël. Rabbi Shimon il dit que si quelqu'un sort de la terre d'Israël, c'est comme s'il versait sa semence. Qu'on n'a pas le droit de sortir d'Israël et de payer des impôts dans une terre étrangère à notre culture. Qu'on n'a pas le droit d'habiter en dehors de cette terre. Rabbi Shimon, attention, hein, je ne sais pas si vous allez allumer encore des veilleuses, hein, cette fois-ci. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il était à notre époque, il aurait fait le Hallel à Yom HaAtzmaout avec deux bras fautes. Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la plus grande épreuve qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, c'est qu'il nous a fait sortir de l'exil et nous amener sur la terre d'Israël et nous donner la possibilité d'avoir une maison ici. Quelqu'un qui a une maison en Israël, même en location. Hier, je leur ai montré dans une Hanouka de Baït. Il tire un verset de Micha. Ahavti etchem neum Hashem. Je vous ai toujours aimé. Et comment est-ce que je vous prouve que je vous aime? Je vous ai fait sortir d'exil et je vous ai fait habiter sur la terre d'Israël, parce que quand vous achetez ou vous louez une maison ici, moi, à Kadosh Baruch Hu, je viens dormir avec vous dans la maison. Voilà. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Incroyable, incroyable. Si on connaissait, exactement. Et si vous connaissiez l'envergure de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous verriez qu'en réalité, c'est la lumière. C'est la véritable lumière. Mais vadaï qu'il faut lui allumer des bougies. Il faut que je fasse très attention, je le dis moi. À chaque fois c'est compris là. Ça attaque de tous les côtés en plus. J'ai même perdu un bouton à ma chemise. C'est ce soir et demain. Ce soir on n'allume même pas des bougies, on allume des feux. Les enfants, intuitivement, ils ont compris ce que les adultes n'ont rien compris encore. Notre état d'esprit, il est très simple. Vous savez qu'on n'a pas le droit, normalement, d'allumer les lumières de Hanouka, les bougies dans la Hanoukia, on n'a pas le droit de les allumer à moins de 3 poignées du sol. Ça veut dire que c'est ici minimum. D'accord? Plus bas, on n'a pas le droit. Pourquoi? Il y a marqué, mais olam lo yarda shrina mitachat le shlosha tfachim. La shrina n'est pas descendue à moins de 3 poignées du sol. Alors j'ai un chidouche pour vous. Ce soir, le feu il touche le parterre. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réussi à défier tout ça. Alors qu'à Hanouka, qui est la lumière la plus cachée de l'année, on n'a pas le droit de la faire plus bas. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, moi je peux. Parce que pour moi, il n'y a pas plus grand que l'amour de la terre. Et la lumière divine doit toucher la terre. Donc le feu va venir à même le sol. Extraordinaire. On ne comprend même pas ce que le Zohar nous dit. C'est extraordinaire ce qui est écrit dans le Zohar, ça fait peur. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans plein de choses qui parlent de ce que représente la terre d'Israël par rapport aux autres terres. Attention, hein. C'est très très important, très important. Et c'est pour ça qu'il y a encore, à part le Zohar, Shiv'im Tikkunim, il y a encore 70 arrangements qui sont en réalité toute la base même de toute la Galoute et de toute la Géoula. Et il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que grâce à son feu à lui et à son Zohar, que Zohar veut dire splendeur, lumière, les enfants d'Israël sortiront de l'exil avec miséricorde. Pourquoi? Parce que quand tu mets du Zohar dans ton étude, c'est sûr que tu ne peux plus rester à l'extérieur. D'ailleurs, c'est une Mishnah dans le traité Avot. Perek Bet. Aftalion Omer. Aftalion nous dit, Chachamim, Hizdaharu Bedivrechem. Aftalion nous dit, vous les sages, faites très attention dans vos paroles. Pourquoi? Shem Atachov Uchovat Galut. Parce que vous risquez de sortir en exil. C'est l'insulte la plus grande. C'est d'habiter ailleurs, il n'y a pas plus grande insulte. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils font la Torah à l'extérieur, c'est bon. Quel? Arrêtez de me parler des rabbanim, je ne sais pas moi, je ne connais rien, moi j'étudie, je vous jure que j'essaye d'étudier le plus et mettre possible en cherchant toutes les références de tous les côtés. Je vous jure que c'est vrai, devant ce Sefer Torah. Et si je trouvais quelque chose qui contredit ce que je suis en train de dire, je n'aurais pas été à cette place. Quand les gens m'apportent une référence de leur shita, je leur apporte des kilos. Arrêtez. Le Hémet, il va ressortir de toute façon. Et si ce n'est pas chez eux, c'est chez leurs enfants. Et si ce n'est pas chez leurs enfants, c'est leurs 6 ans. Aujourd'hui, toute la Knesset, elle est remplie de gens qui étaient au départ anti-sionistes. Alors faites-moi rire. Qu'est-ce qu'il faut à la Knesset? C'est l'État d'Israël. Bizarre quand même. Ça veut dire que l'histoire est plus forte que nous tous. Et qu'Akadosh Baruch Hu est plus fort que nous tous et qu'il va faire de toute façon ce qu'il a envie de faire. Et si ça rentre pas dans ton petit tiroir cérébral, c'est pas grave. C'est moi qui dirige l'histoire. Mais Ar Baruchot Boyarouar, tu vas pas m'indiquer comment faire la Géoula. La Géoula, elle peut venir par des chemins que tu ne t'attends même pas. Donc toi, tu vas dire à tes cadeaux de Baruch Hu, non, ça me plaît pas, ce type-là, il a pas une kippa, cette femme, elle a pas une kippa, donc elle vaut rien. Mais qui tu es? Ce que je veux dire par là, c'est que ce feu-là, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est l'Ag Baomer, il a une capacité extraordinaire. Ce soir, ça va être combien du mois de Iyar? Non, ça c'est 33 du Homer. Mais le mois de Iyar, 18. C'est-à-dire que c'est la vie, Chai. Que s'est-il passé, nous dit la Gemara à cette date-là, l'Ag Baomer? Bien, les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour de l'Ag Baomer, qui est le 18, donc Chai, du mois de Iyar, il y a une capacité de revenir à la vie, donc d'arrêter la mort. Donc l'Ag Baomer, toute la journée, de ce soir et demain, toute la journée, on peut transformer complètement la mort de ce monde et ramener la vie. Pas seulement chez les morts qui sont dans les cimetières, chez vous. Exactement, chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Mort, c'est pas seulement être enterré. Mort, c'est être triste. Mort, c'est être angoissé. Mort, c'est être en dépression. Mort, c'est être éteint. Mort, c'est être tout le temps fatigué. Vivant, c'est être en bonne santé. Vivant, c'est rigoler. Vivant, c'est être dans l'amour de notre terre, de notre peuple, de notre Torah. Vivant, c'est plein de choses. Eh bien, ce soir-là et demain, c'est ça le inyan du retour. Et c'est ça le secret le plus grand de l'Ag Baomer, c'est que cette journée-là est capable de défier la mort. Alors que si on demande à quelqu'un, qui est le plus grand gagnant de ce monde? La mort. On est d'accord? Tout le monde doit mourir, non? Vous êtes persuadé de ça? Ça veut dire que c'est plus fort que la vie. Et qui c'est la vie? Akadosh Baruch Hu. Donc moi j'ai trouvé maintenant un Dieu qui est plus fort que Dieu. C'est la mort. Alors que Dieu c'est la vie, vous êtes en train de me dire que la mort est plus forte que Dieu.
Non.
Eh oui. Vous comprenez ce que je suis en train de vous faire là? Ça veut dire qu'en réalité, il ne faut jamais tomber dans cette erreur que la mort fait partie de notre existence. C'est parce qu'on a fauté que la mort est arrivée dans notre vie. Mais si on corrige cette faute-là, on revient vers une vie éternelle. Et c'est ça que la Torah nous demande.
C'est pour ça qu'on dit Betahaim.
Ça c'est chez les morts, pour ne pas dire la mort. Mais Eretz Israël, comment elle s'appelle? Eretz Haim. Alors que si vous prenez Ézéchiel 37, comment s'appellent tous les pays en dehors de cette terre? Non, non, pas Met. Kvarot, Bet Kvarot. Yeheskel, vous connaissez Yeheskel? C'est chez nous, hein, Ézéchiel, on a les mêmes imprimeurs, hein. Ézéchiel 37, ouvrez! Je vous sortirai de vos tombeaux, c'est-à-dire de toute l'Europe et de toutes les États-Unis et de tout ce que vous voulez, avec vos communautés, avec les plus grands rabbins du monde. Tout ça, ça s'appelle un cimetière pour vous ramener vers le pays de la vie. Regardez! Et si je vous mens? Ézéchiel 37. Ve'eleti etrem, je vous le cite. Par cœur. Et précisément, ve'eleti etrem mikivrotechem. Je vous sortirai de vos tombeaux. Ami, ve'eleti etrem elatmatrem. Je vous ramènerai sur votre terre. Ou chiitem et vous allez vivre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tout l'exil est un grand cimetière. Qu'est-ce que tu veux de plus? Le judaïsme, pendant 2000 ans, est appelé comment par le prophète? Atsamot yeveshot. Des ossements desséchés. Qu'est-ce que c'est des ossements déchets? Quand tu ouvres un tombeau, c'est tout ce que tu trouves. C'est ça que tu veux, c'est ça le judaïsme. C'est ça que tu veux, une petite communauté, je ne sais pas où, à New... Tu n'as pas?
création d'État d'Israël, ça a quand même maintenu le
judaïsme en Galilée. On est d'accord. Je suis d'accord, mais ça n'a pas maintenu quoi? Ça a maintenu jusqu'à la création d'État d'Israël quoi? Qu'est-ce que ça a maintenu puisque ça s'appelle Atamot Yevechot? Il y a un rêve. Aïnou Kecholmim, il ne faut pas arrêter de rêver. Mais ce n'est pas une vie. Ça a maintenu pour ne pas mourir complètement. Mais ça ne s'appelle pas une vie. Tu veux vivoter ou tu veux vivre? Je peux vivre dans une situation sous l'eau avec des bouteilles d'oxygène. Mais ça ne s'appelle pas vivre. Je suis un homme, je dois marcher normalement, comme tout le monde, sur la terre ferme. Alors c'est vrai que ça a maintenu certaines choses, mais il ne faut pas inverser le processus. C'est-à-dire que de dire que l'exil c'est une bracha. Je vais construire, je vais continuer à monter. Mais c'est ce qui se fait. Je monte des écoles, je monte des synagogues, je monte des yeshivot, et je continue à faire comme si ça allait rester encore 2000 ans. À partir du moment où tu as conscience que le peuple d'Israël doit être sur sa terre, vous savez, ça me rappelle quelque chose. Moi, je suis prof. Si j'ai un élève dans la cour qui me dérange dans la classe, je lui dis, sors dehors, s'il te plaît, va te calmer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Israël. On a fauté. Kadosh Baruch Hu nous a sorti comme un mauvais élève. Il nous a dit, sors en exil. Qu'est-ce que j'attends de cet élève? Tous les 5 minutes, il tape, je me suis calmé, je veux rentrer. Moi, je sors, je le vois en train de bâtir un stade de foot, une synagogue à l'extérieur. Moi, je t'ai fait sortir pour que tu reviennes, pour que tu me montres que tu as envie de revenir. Toi, tu es parti investir là-bas. Vous comprenez ce que c'est le judaïsme de l'exil? Au lieu de rentrer à la maison et de prier pour rentrer à la maison et de, quand ça se passe, en plus de ça, reconnaître venir, même quand ça se passe, tu fermes les yeux, tu dis non, c'est pas possible, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme j'ai étudié. Ça s'appelle, c'est une maladie, hein, le déni. Il y a des femmes qui sont enceintes et qui ne le savent pas. Le bébé, il pousse à l'envers. C'est-à-dire, elles ont le ventre plat. Et un jour, elles ont très 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 mal au ventre, elles vont à l'hôpital, et il y a un bébé qui sort. Un déni, regardez jusqu'où le cerveau, il peut se tourner la tête. Mais arrêtez de vivre dans un déni, va vous cracher. Regardez ce qui se passe. C'est une Gan Eden. Rabotaï, tout ce que je vous dis, c'est pas parce que j'ai envie de renforcer ma chita, je ne sers pas une chita. J'essaye de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc une chita. C'est servir à Kadosh Baruch Hu. Chita, c'est rentrer dans un système style, moi je suis Rabat, moi je suis Breslev, moi je suis machin, moi je suis... Je suis rien du tout, moi. Je suis un homme d'Israël sur sa terre et j'essaye d'étudier une Torah avec sérieux, avec des références. Pas mon ravi l'a dit, mon ravi l'a dit, et pourquoi lui l'a dit alors qu'il a dit. Je sais pas moi ce que tu dis. Moi j'étudie, j'ai des références. Baruch Hashem, on a tout le Tanakh, on a des Mishnayot, on a des Gmarot. Alors je vous traduis maintenant la Mishnah, puisqu'on parle de Mishnayot. Chachamim Izaharu Bedivrechem, qu'est-ce que ça veut dire? Vous les sages, faites attention à ce que vous dites, parce que vous risquez de sortir en exil. C'est ce qui est marqué. En réalité, si je veux véritablement coller cette Mishnah au vrai sens de ce qu'elle veut dire, Chachamim, Izaharu, mettez du Zohar, Bedivrechem dans vos paroles. Quand vous étudiez la Torah, rentrez de la lumière du Zohar. Pourquoi? Parce que si vous ne rentrez pas du Zohar dans vos paroles, vous allez finir où? En exil. Parce que vous allez penser que étudier la Torah, c'est à l'essentiel. Donc étudier pour étudier, que je sois ici ou là-bas, c'est pareil. Puisque la Torah c'est une religion n'a pas besoin de faire. Je peux faire ma religion n'importe où. Or la Torah n'est pas une religion, le judaïsme n'est pas une religion. C'est une nation qui a été choisie par l'infini béni soit-il pour donner la parole divine à partir d'un lieu précis. À Aret Asher Areka, de la terre d'Israël. C'est la première rencontre qu'Akadosh Baruch Hu a avec Abraham Avinu. Première rencontre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais parlé. Jamais. Première fois que Dieu voit Abraham, il lui dit « Lech Lecha ». Magnifique. C'est tout ce que tu as à me dire? Oui, j'en ai marre que tu sois ici. Ça suffit. Il est dehors. Hein? Il dit l'echlecha, fais-moi plaisir, l'echlecha. Me'artecha, quitte ta terre. Moladetecha, quitte le moment où tu es né. Betavicha, quitte ta mentalité, telle que tu as appris avec ton père. Bizarre, hein? Ve'el ha'aret asher ha'aretha, je veux t'indiquer une terre, c'est là-bas où tu dois être. Pourquoi? Ve'aretha l'egoï gadol, parce que moi j'ai un but pour toi, c'est pas que tu deviennes un grand religieux n'importe où paumé au monde. Je veux que tu deviennes une grande nation. Or, une grande nation, tu ne peux être que sur ta terre. Et pourquoi faire, je vais devenir une grande nation? Parce que je veux que toutes les familles de la terre prennent de ce que tu vas informer. Et qu'est-ce que tu vas informer? Moi. Tu vas me dévoiler au monde. Où est-ce que je peux être dévoilé dans le monde? Qu'à partir de cette terre-là. Vous allez me dire, mais un juif qui donne un cours de Torah à Bangkok, c'est pareil. Non! Qui mitzion tese Torah. Udvar Hashem mi Yerushalayim. L'homme m'a comme acher. Arrête de me raconter des histoires. Ou alors, donne-moi une référence. Moi, j'ai des références. Ne me raconte pas de salade. Qui mitzion tese Torah. La Torah ne peut pas sortir si ce n'est pas de Tzion. Pourquoi? Parce que seulement à Tzion, tu es une nation. Or, qu'est-ce que c'est sortir la Torah de Tzion? C'est pas seulement enseigner la Torah. C'est que quand les nations vont voir toute la réussite de notre peuple sur la terre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Az yomru bagoyim, igdil Adonai la'asot im elle. On voit qu'il y a quelqu'un qui marche avec eux, c'est le bon Dieu. Ça peut pas être autrement. Nous, on essaye depuis 2000 ans, on n'arrive pas. Eux, ils sont là depuis 70 ans, encore dans leur couche. Ils sont en train déjà de monter dans le monde. C'est incroyable. Vous chantez cette chanson d'Aaron, igdil Adonai la'asot im elle. C'est eux qui parlent. Et après, en deuxième lieu, nous on se réveille. Il dit, voilà, il dit la donna, il regardez la bêtise, qu'est-ce? C'est les nations du monde qui nous disent, mais vous ne voyez pas que vous êtes bénis par Dieu. Et après nous, on se dit, mais c'est vrai, ils ont raison quand même. J'ai besoin, moi, que lui me confirme que je suis béni par Akadosh Baruch Hu. Tu vois pas? T'as pas des yeux pour voir? Ça, c'est le secret de cette semaine. La semaine prochaine, c'est Yesod. Yesod, c'est tout le passage vers la Malchut. La semaine prochaine, on a un autre Kabbaliste. La Malchut, c'est la royauté d'Israël. C'est là où toutes les bénédictions se rassemblent. Je vais vous aider, vous n'allez pas oublier. Vous prenez les lettres de Malchut, vous les transformez, ça fait ma collègue. Je rigole pas, c'est les mêmes lettres. Qu'est-ce qu'il y a à la Makolet? Tout. Il y a tout. Eh bien, Malchut, il y a tout. C'est de là-bas que vient la bracha. Voilà, c'est tout. Donc c'est la Makolet Zakados Baruch Hu. Où tu vas à la Makolet? Il me manque un petit truc, mais il y a la Makolet, il y a tout. Donc la Malchut, c'est il y a tout dedans. Voilà, c'est tout. Maintenant, jamais vous allez oublier. Yesod, c'est le fondement. C'est-à-dire, c'est la Brit Mila chez l'homme et la femme. C'est de là où passe la vie. D'accord? C'est la Brit Mila, c'est cette partie du corps. Et nous avons aussi un grand stage la semaine prochaine. Comme cette semaine, nous avons Rabbi Meir Baalanes et Rabbi Shimon Bar Yochai, la semaine prochaine, nous avons Rabbi Moshe Chaim Lutato, le Ramchal. Et lui, il est dans le Yesod du Yesod, le Ramchal. Ça veut dire que c'est la fin des temps, d'ailleurs. Le Ramchal, il a écrit un livre qui s'appelle les 70 Tikkunim, comme le Zohar. À la différence, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit un Zohar qui est sur un mot, Bereshit, le début de la création, et le Ramchal, il a écrit un Zohar avec 70 arrangements pour le dernier mot, Israël. Donc vous avez en fait deux mots, Bereshit, Israël, c'est tout. Voilà l'histoire tout entière. Et ces 70 arrangements, si vous les étudiez, vous comprenez quel est le rôle du peuple d'Israël dans ce monde, d'être une nation sur sa terre, avec un royaume, et de diffuser la parole divine à partir d'ici et de nulle part ailleurs. Parce que ailleurs, vous n'avez pas le décodeur. Ça veut dire que toute la Torah qui sort d'ailleurs, c'est... Tu vois rien. Tu veux émettre, tu dois sortir d'ici. Et je vous ai dit tout à l'heure, émettre, c'est pas seulement donner un cours de Torah, c'est tout simplement être. Donc le peuple d'Israël est, et qu'il se développe, on commence à compter parmi les nations. Aujourd'hui, les nations sont obligées de nous prendre en compte. ne peuvent plus dire, non, avant, quand on était en exil, c'est le petit juif, le pauvre juif qui est paumé, il rase les murs, là. Même pas, on l'écoute, qu'est-ce qu'il a à dire? Aujourd'hui, on a une terre, on a une nation, on a un État, on est obligé de nous écouter. Si aujourd'hui, on a évité une guerre mondiale la semaine dernière, que vous ne savez peut-être même pas, c'est parce que les services secrets israéliens ont dévoilé aux États-Unis, qui n'ont même pas vu eux-mêmes, qu'il y avait des fusées iraniennes qui étaient braquées sur elles. Vous comprenez? Qu'est-ce que c'est qu'une Torah? C'est pas seulement des livres. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est le rôle que joue Israël parmi les nations aujourd'hui. C'est une lumière qu'on ne peut plus mettre de côté. Ouais, vous ne valez rien. Pas du tout. On vaut, Baruch HaShem. On mérite. Et on mérite aussi le dernier dévoilement qui, Be'ezrat HaShem, est en train de nous rapprocher à la grande lumière divine. Donc, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous souhaiter. J'en ai beaucoup, mais une chose essentielle, c'est revenez à votre identité. N'oubliez pas qui vous êtes. Arrêtez de croire que vous êtes des juifs paumés individuellement parlant. Vous êtes une nation, Rabotai. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est être une nation qui reconnaît Takados Bokhulipé. Il y a une chanson de Shlomo Arsi. Vous connaissez Shlomo Arsi? C'est un chanteur israélien. Il chante une chanson qui est extraordinaire, qui est un jour un shiur de Torah. Pitom kam adam baboker ou margish ki ou am ou matril alechem. Un jour se lève un homme et il a compris qu'il était un peuple. Et là il commence à marcher. Si vous vous levez en croyant que vous êtes des individus religieux avec votre petite Torah, vous et votre petite famille, c'est pas ça. J'ai envie que vous marchiez dans la rue avec la poitrine gonflée, je suis une nation sur ma terre. Même s'il y a des gens qui ne me ressemblent pas, c'est pas grave. Elles font partie, ces personnes-là, de mon peuple, et je les aime pour ce qu'elles sont à l'intérieur, pas pour ce qu'elles font. Si vous commencez à aimer des gens parce qu'ils vous ressemblent, vous êtes très mal. J'aime mon peuple pour ce qu'il est, même s'il ne pense pas la même chose que moi, c'est pas grave. On est tous à travailler pour le même patron. Mais ça n'enlève pas que j'ai une façon de dire et je dois me battre pour que cette façon de dire soit connue. Pourquoi? Parce que ce sont des références. Je veux arriver au aimé. J'ai dit que je ne suis pas là. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, madame. Donc, Be'ezrat HaShem, je vous demande réellement d'être dans la simcha. Et je vais vous donner une tseboula comme cadeau. Je vais vous donner une tseboula comme cadeau. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, de n'importe quelle maladie, vous prenez un vêtement qu'il a mis. Vous prenez un vêtement que cette personne a porté sans être lavé, même s'il a porté une minute. Et s'il ne l'a pas porté, c'est déjà lavé, mettez-lui un vêtement avant ce soir. Et vous enlevez ce vêtement, même une minute sur lui, vous enlevez ce vêtement et vous le mettez dans un des feux que vous allez voir dans la ville. Et au moment où vous mettez ce vêtement dans le feu, Be'ezrat HaShem, la personne guérit. C'est une tégoula de grand, grand, grand kabbali. Be'ezrat HaShem, je vous donne ça en cadeau. Kakadosh Baruch Hu exauce votre silot. Que la maladie, en fait, brûle. Et la personne en question devient en bonne santé. Pardon ? Elle peut le faire elle-même, la personne malade, bien entendu. Mais si elle est vraiment malade et qu'elle ne peut pas bouger, vous pouvez le faire à sa place. Quelle? Cette Torah que j'enseigne. Merci.
C'est très grand, et ça donne une dimension exceptionnelle.
Merci.
Mais j'ai envie de dire autre chose, c'est que l'un, il peut aller avec l'autre.
J'ai pas dit le contraire.
L'un, c'est comme le corps et la neshama.
Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je n'ai pas contrairement à ce qui est fait de l'autre côté.
Peut-être pas, c'est ce que j'allais te dire, permets-moi. Je connais quelqu'un ici qui vient dans le séminaire, d'ailleurs, peut-être que tu vas comprendre. Un rave exceptionnel qui rave dit d'apparence, j'ai envie de dire, avec son chapeau et son truc sur la chasse.
Il n'y a pas de souci. Mais au contraire, tu es en train de donner de l'eau à mon moulin. Tu es en train de me dire que quelqu'un d'exceptionnel, de vrai, reconnaît les choses. Moi, j'ai aucun problème avec la façon de t'habiller. J'ai aucun problème. Je dis juste que il faut l'entité des choses. La neshama sans le corps, ça ne marche pas. Le corps sans la neshama, ça ne marche pas. Donc, cette Torah-là du pshat, je n'ai pas négligé. J'ai dit tout simplement qu'on l'a étudié pendant 2000 ans. Et qu'il est maintenant grand temps d'associer la Torah plus profonde à cette Torah-là. Et là, ça donne une autre dimension. Mais en aucun cas, j'ai enlevé une partie de la Torah, Chas v'chalila. Tiens, ça attaque de tous les côtés. Tiens. Donc, Be'ezrat Hashem, ne comprenez pas ce que je n'ai pas dit. Ken, je suis un homme qui suit la halakha à la lettre, mais dans chaque halakha, j'essaie de trouver la neshama de ce que je suis en train de faire. C'est tout. Je mets les filines tous les matins, mais pas seulement parce que c'est écrit. Je suis le Rambam qui me dit, cherche un goût. Comme quand tu fais à manger. Si tu fais à manger et tu mets les ingrédients et que ça n'a pas de goût, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes du sel, tu rajoutes des choses. Eh bien, c'est la même chose. Dans mon étude, c'est un repas. Si je n'ai pas de goût à ce que je dis, c'est un problème. Donc, je rajoute quelque chose qui va me donner du goût. Merci beaucoup. Daraba. Licha? Comment tu n'as pas? Mais je suis transparent ou quoi? Mais je viens! Moi, quand elle m'invite, je viens!
Vous avez même dit que vous allez venir à la taverne un jour.
D'accord.
Alors, on
vous attend. Mais attachez. Je suis là, j'essaye de faire passer ce message. Bien entendu, maintenant, je ne suis pas contre personne, Ken. Mais je viens apporter cette lumière que j'ai eu la chance et le remercie à Kadosh Baruch Hu, je le remercie de m'avoir donné cette chance-là, je veux la partager avec ceux des autres. Aux vêtements, oui. Les vêtements, ça sert de tout. Vous pouvez le faire participer ou bien sans sa connaissance, même s'il n'est pas conscient de cela. Pardon, il n'y a aucune bracha à faire, juste vous dites que le mal parte avec ce vêtement-là qu'il a porté. Et que lui reste en bonne santé. Toda Rabba les Koulkhem.
Maintenant, on va réfléchir alors.
C'est bien.